אז פסוק למד א', ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם. וגרדרם ממצוות ולפרטיקרי, אני השם, je suis השם. Rashi dit tout de suite que Ushmartem, qu'est-ce que ça veut dire de garder les mitzvot? Rashi dit Zou à Mishnah. C'est-à-dire, en fait, vous allez étudier la Mishnah qui parle des différentes mitzvot. De toutes les Mishnayot qui parlent des mitzvot. Vasitem otam, zemaase. Et la siya, ça veut dire, c'est pratiquer effectivement les choses. Et ensuite, le passage continue, enfin, le texte continue. Velot chalou et shem kochi, vous ne profanerez pas mon saint nom. Venigdashti betoch bnei Israël, je serai sanctifié au sein des bnei Israël. Ani Hashem et Kadishrem, je suis Hashem qui vous sanctifie. Et hamotzi etchem meretz mitzrayim, Liot lachem l'Elokim ani Hashem. Donc ce dernier verset qui dit donc Amotzi etchem meretz Mitzrayim, je suis celui qui vous est sorti du pays d'Égypte afin d'être pour vous votre Elohim. Ani Hashem, je suis Hashem, je suis le tétragramme. Vous voyez dans ce verset, on a à la fois Elohim et Hashem. Donc les deux noms divins. Dans Bereshit, la première fois que le texte porte à la fois Elohim et Hashem, donc dans l'ordre Hashem Elohim, c'est pour dire que c'est Hashem Malé. C'est le nom complet. C'est le nom divin complet. Je voudrais voir avec vous le commentaire de Ravali. Ravali, c'était un Mekoubal italien qui était du même Beit HaMikdash que le Ramchal, que Rav Moshe Chaim Lutzato, dont on a étudié récemment, on étudie encore Messilat Yesharim, par exemple. Bon, donc, c'était quelqu'un de très important qui a fait un commentaire très complet sur quasiment tout le Tanakh, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres œuvres de lui, mais il y a l'air d'y avoir pratiquement tout le Tanakh. Et lui, il commente ce verset de « Amotzi etchem meretz Mitzrayim liot lachem l'Elokim ». Alors il dit Sheu sod ashrat shchina hakdosha. Di razad Elokim ki adua. Ce verset là, il parle de la ashrat shchina, de la résidence d'Hachem dans Klal Israël. C'est ça le secret de Hachem sera notre Elokim, c'est-à-dire il va résider parmi nous, ashrat shchina. Ve'ima ashrato shel HaKadosh Baruch Hu. Donc il y aura à la fois la Shrina, ce qu'on appelle présence divine, et aussi la présence d'HaKadosh Baruch Hu, c'est ce qui correspond au Shem Elohim. Il y a deux choses, semble-t-il, deux niveaux de présence dans le Klal Israël. Et les deux noms en question, le tétragramme et Elohim, on sait déjà que ça, c'est Shema Shalim. C'est le nom complet d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que ce nom-là, il inclut les deux mondes ensemble, le monde masculin et le monde féminin. Le monde du masculin et le monde du féminin. Les deux noms divins, Elohim et Tétragramme, Hashem, ça correspond à deux noms de monde, à deux mondes différents. Et ici, tous les deux mondes, tout ce qui a toute la spécificité de la création qui est sur le monde du deux, Zahar ou Nekeva, quand on a les deux noms divins qui sont ensemble, et Hachem dit, je vous ai fait sortir d'Égypte pour que justement il y ait ce nom complet. Ani Hachem, c'est moi Hachem qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Elohim. Donc, Shemikla la'inyanim amekaimim et agdusha b'Israël, dans les règles, dans les sujets fondamentaux qui assurent qu'il y a de la gdusha dans le clan Israël, inyan gadol hu lishmor et ha'shabbatot v'tamodim. Il est très important de garder les Shabbatot et les Moadim. Le fish et aliedesh miratan karaoui, parce que justement, en respectant, parce que cette parasha-là, elle est dite justement dans le cadre des Moadim. Vous savez que dans Parashat Emor, on parle des Moadim. Alors, on a la Kdusha Eliona, la Kdusha la plus haute, Ve'imahem, et en même temps, Olim Gamken, Kol Nishmoten Shel Israël. Il y a donc aussi une élévation de toutes les Neshamot du clan Israël. Kol Echad Ve'echad Mehem, Kefi Shorasho, chacun des Bnei Israël en fonction de la racine de sa Neshama, Ukfi Madrigato, Shmirato, et effectivement en fonction du niveau qu'il a atteint au niveau à son niveau d'étude de Zeu Inyan Amro Be Samour. C'est la raison pour laquelle tout de suite après, qu'est-ce qui vient? Il vient le Vaidaber Hashem El Moshe les morts, Daber Ben Israël Ve Amarta Alehem Moade Hashem Asher Tikru Otam. Voici les Moadim d'Hashem Asher Tikru Otam. Et si vous voulez bien regarder dans votre Chumash, vous verrez que le mot Otam, il est écrit Chaser. Il est écrit sans le Vav. Il est écrit Aleph Tav Mem. Donc, ça veut dire Asher Tikru Atem. C'est vous qui allez nommer mes Moadim. Le fichier Akol Talou Bi Israël Atzman. Parce que tout dépend des Bnei Israël eux-mêmes. Sha'elyonim olchim bedavar ze acharei atachtonim, parce que les êtres d'en haut, ils attendent le signal des êtres d'en bas. Donc ils attendent que les Bnei Israël donnent le signal. Donc tout ce qui se passe en haut va devoir attendre, comme on le sait bien dans la Kedusha. Ils attendent que les Bnei Israël disent la Kdusha pour pouvoir la dire à leur tour. Alors, Elehem Moadai, ceux-là sont mes Moadim, mes rendez-vous. Chazal disent, Eli Moadim Ela Elu. Je n'ai pas d'autres rendez-vous que ceux-là. C'est pour ça que ça s'appelle des Moadim. Et tout ça, ça vient de la préparation et de l'attention qui est et du respect de toutes les lois par les Tartonim, par ceux d'en bas, c'est-à-dire par les Bnei Israël. Maintenant, toujours le fameux problème, comment se fait-il qu'on annonce les Moadim et que la première chose qui est dite, c'est Shabbat? On sait bien que Shabbat, c'est pas un Moed. Mais pourquoi on commence par Shabbat? Ki ma'alato v'kdushato v'chashivuto yoter gdola mi'malat ha'moadim. Parce que Shabbat est plus important, il a plus de kdusha que les Moadim. Les Moadim sont seulement appelés Mikrae Kodesh, c'est-à-dire des temps qui sont sanctifiés. Avala Shabbat ou Kodesh Mamash. Il est la Kdusha elle-même, le Shabbat. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là, ici, des choses fondamentales ici? C'est d'abord que la sortie d'Égypte, elle avait pour but de faire en sorte qu'il y ait Ashrat Ashrina, qui est la présence divine dans le clan d'Israël, mais aussi quelque chose qui s'appelle Ashrat Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi, pas Akadosh Baruch Hu, du Shem Hashem en fait, du Shem Havaya, du tétragramme. Aussi, comme Ashraato. Donc, Hachem lui-même est présent. Ça veut dire le fait qu'il y ait le nom divin tétragramme, qui est plus élevé, comme chacun sait que le nom divin Elohim, c'est quelque chose d'encore un peu plus puissant que Ashraat Ashrina, qui est lié avec Elohim. Présence encore plus évidente, si on peut parler comme ça, plus patente, etc. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, cette histoire-là, je voudrais rappeler, je suis pas tout à fait sûr que je l'ai vu avec vous, quand on a vu le Moler la dernière fois, on avait vu que, curieusement, Akadosh Baruch Hu, quand il parle de celui qui pratique l'idolâtrie molaire, il dit que celui-là, il profane mon migdash, il profane mon sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire, profane mon sanctuaire? Le type qui fait le molaire, il fait pas ça dans le Beit HaMikdash, il fait pas ça dans le Mishkan. Il se fait son feu, là où il va passer son enfant à travers le feu, c'est n'importe où. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a la profanation du sanctuaire d'Hachem? Donc on avait vu, je crois que je ne l'ai pas dit, j'aurais dû, que qu'est-ce qui est appelé Mikdashi? Qu'est-ce qui s'appelle mon Mikdash, mon sanctuaire? Alors pour ça, il faut revenir à la définition du Mishkan. Quand Hachem a donné l'ordre de fabriquer le Mishkan, il a dit Vasuli Mishkan, Vasuli Mikdash, pardon, Veshachamti Betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Là-bas, on apprend que je résiderai parmi eux. Shachanti betocham, ça veut dire belev kol echad ve'echad. Hachem dit, vous avez fait un sanctuaire et je résiderai dans le cœur de chacun. Ça veut dire que le sanctuaire lui-même, c'est le cœur de chacun dans le clan d'Israël. Et donc, quand il dit, dans le pasouk, Hachem dit, avec le molaire, il y a une profanation de mon sanctuaire. Il profane le peuple juif. Du fait qu'au sein du peuple juif, il y a quelqu'un qui se conduit de cette manière-là, ça profane tout le clan d'Israël. C'est pour ça que c'est tellement important. Il y a une profanation de tout le clan d'Israël. Toute la kdusha qu'il y a dans le clan d'Israël, elle est en quelque sorte presque expulsée de par la conduite de ce bonhomme-là qui passe ses enfants au molaire, qui fait ce qui pratique le molaire. Extrêmement grave. Et ici, quand Hachem dit, quand on dit que je vous ai fait sortir de Mitzrayim, liot lachem l'Elokim, et le Rav Bali dit, ça veut dire Ashrat Ashrina, qui correspond au, il y a une présence divine qui correspond à Elohim. Ça, c'est la résidence du nom divin, en quelque sorte, en nous. C'est-à-dire qu'on est guidé par Elohim. Et puis, un deuxième niveau, Ani Hashem, parce qu'on continue, Ani Hashem, c'est moi, Hashem. C'est-à-dire, il y a une résidence dans, toujours dans le cœur des hommes, encore plus élevé, un niveau plus élevé encore, qui est la résidence qui correspond au nom divin de tétragramme. Et c'est l'importance ici des Moadim qui sont Shabbat et les Moadim, c'est absolument fondamental pour qu'il y ait cette présence d'Hachem, de Elohim dans le clan Israël. Et alors, on avait vu ici que, ici, il nous dit le Shabbat, c'est plus important que les Moadim, parce que le Shabbat, c'est la Kdusha elle-même. On voit dans la bracha, dans la bracha du Shabbat, où on dit Mekadesh HaShabbat, Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, Hashem a sanctifié le Shabbat. Il a fait du Shabbat de la Kedusha. Il y a une Kedusha de Shabbat qui a été mise dans le Shabbat par Hachem lui-même. Je dis par Hachem lui-même, si on peut parler comme ça, alors que vous savez bien que la même bracha, s'il s'agit du Yom Tov, on dit Mekadesh Israël ve'azmanim. La Kadosh Baruch Hu sanctifie le peuple juif, plein Israël, qui à son tour sanctifie les Zmanim, sanctifie le temps, ou fixe les Moadim. Cette idée-là, qu'il y a donc deux niveaux de Kdusha. Un niveau, le niveau le plus élevé, qui est la Kdusha elle-même, si on peut parler comme ça, et puis il y a une sanctification par les hommes. Alors cette sanctification par les hommes qui donne lieu au Moadim. Vous vous souvenez, je le répète là maintenant, peut-être, ça correspond à la première mitzvah qui nous a été donnée, à Shfodesh Azelachem, c'est la mitzvah de fixation des mois. C'est-à-dire, ce sont les Bnei Israël qui décident des mois. Au sens où, la mitzvah elle se déroule de la manière suivante. Toute personne qui voit la nouvelle lune, ce fameux mini croissant de nouvelle lune, il prend n'importe quel moyen de locomotion, y compris Shabbat, et il fonce à Yerushalayim. Et il arrive au Beit Din, au Sanhedrin, là-bas, et il témoigne, j'ai vu la nouvelle lune. Alors on va vérifier que c'est vrai. D'abord, on calculait pour savoir si c'était possible qu'on voit la nouvelle lune à ce moment-là. Puis ensuite, on vérifie s'il s'est pas trompé entre un petit nuage. On va regarder comment était la courbure du croissant, etc. Pour savoir si c'est vraiment un croissant de lune qu'il a vu. Si ceci est vrai, et qu'il y a un deuxième bonhomme qui lui aussi a vu la nouvelle lune, et qui a été donc lui aussi examiné pour savoir s'il disait vrai, etc. Et si ceci est vrai, alors le chef du Sanhedrin proclame Mekoudash. Il annonce le nouveau mois est sanctifié. Et donc c'est le premier jour du mois en question. Alors, les Moadim, ils sont attachés au calendrier en question. Ce calendrier qui est défini par la déclaration du chef du Sanhedrin qui annonce Mekoudash. Donc quand il a annoncé Mekoudash du mois de Tishri et qu'on arrive au 10 Tishri, alors c'est Yom Kippour. Et qu'on arrive au 15 Tishri, c'est Sukkot. Mais ce n'est pas la date du calendrier qui fait foi. Parce que cette date du calendrier, on peut la calculer, on sait exactement quand la nouvelle lune va arriver, en l'an, je ne sais pas, 350 millions d'années. C'est une formule, donc on peut la calculer, on peut calculer. Mais il n'y a de Kedusha, il n'y a de nouveau moi, si vous voulez, que à partir du moment où le Rosh HaSanhedrin a proclamé Mekoudash. Et alors, nous, aujourd'hui, on n'a plus de Sanhedrin qui puisse le proclamer. Alors, comment ça marche? Comment ça se fait qu'on pratique Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., Kippour? Les mois n'ont pas été déclarés Mekoudash. Alors, en vérité, ils l'ont été parce que, à une certaine époque, à l'époque d'un rabbe qui s'appelait Hillel, qui n'est pas le grand Hillel, on l'appelle Hillel II, quoi. Le Sanhedrin s'est rendu compte qu'il ne pourrait plus assurer la proclamation et la sanctification parce que les vicissitudes, l'exil, les Romains, etc. Donc, ils ont décidé qu'ils allaient immédiatement sanctifier tous les mois à venir jusqu'à l'an 6000. Pourquoi ils sont arrêtés à 6000? Parce que, vraisemblablement, parce qu'ils pensaient que d'ici là, le Mashiach serait venu. Mais c'est très important qu'ils soient arrêtés à 6000. Parce que si jamais le Mashiach ne venait pas d'ici l'an 6000, il n'y aurait plus de calendrier. Donc, il n'y aurait plus ni Pessah, Shavuot, Sukkot, Kippour, il n'y aurait plus. Puisqu'il n'y aurait pas de mois. Les mois n'existeraient plus. Ils n'existent pas parce que on n'a pas été Mekadesh ces mois. Donc, il n'y aurait plus ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni Kippour, etc. En tout cas, c'est la décision du tribunal qui est souverain d'ailleurs. Ça veut dire que souverain, ça veut dire que si le tribunal juge que c'est pas très adéquat de déclarer Rosh Chodesh aujourd'hui parce que ça nous ferait un Kippour qui tomberait par exemple Motsei Shabbat ou une raison ou une autre. Ils peuvent décaler, ils peuvent ne pas tenir compte du témoignage des témoins qui ont fait le voyage pour témoigner, qui ont été Mechal Shabbat et tout ce que vous voulez, avec le droit de le faire, l'obligation de le faire. Et eux, ils n'en tiendront pas compte parce que ça ne convient pas. Ils sont souverains. Et donc, ils ont fait ça pour nous jusqu'à l'an 6000. Donc, soyez tranquilles. Jusqu'à l'an 6000, c'est tranquille. Il y a des vrais mois, des mois avec de la Kedusha, et donc des mois dans lesquels il y a des fêtes, il y a des Moadim qui sont justement, et qui ont une Kedusha inférieure à la Kedusha de Shabbat, parce que les Moadim en question, ils sont des Mikrae Kodesh, des saintes assemblées convoquées pour être des rassemblements dans le domaine de la Kedusha. Où on respecte la Kedusha, mais c'est pas la Kedusha elle-même comme dans Shabbat. Ça, c'est ce que dit le Rav Vali sur ces psukim-là, avec cette importance fondamentale de ce que la sortie d'Égypte, ici, elle est présentée comme le fait, c'est pas la liberté ou etc. C'est la possibilité d'avoir une Ashrat Ashrina, qui est une présence divine dans le clan Israël. Présence divine dans le clan Israël, c'est quelque chose de, comment est-ce qu'on peut se le représenter? Alors, si vous voulez, on peut s'appuyer sur le Ramban. Le Ramban, je vous l'ai dit déjà, le Ramban, il considère que le Mishkan, c'est un Sinaï portatif. C'est-à-dire pour Ramban, ce qui s'est passé au Sinaï, ça n'est pas un événement qui a eu lieu une fois pour toutes. C'est un processus qui a commencé et qu'Hachem nous a donné la possibilité de pérenniser en quelque sorte. On peut fabriquer un Sinaï. Qu'est-ce que c'est le Sinaï? C'est qu'Hachem vient et parle aux hommes. Bien, dans le Mishkan, Hachem parlait aux hommes. Il parlait à Moshe Rabbeinu, qui ensuite était le représentant du clan Israël. Et donc, le Mishkan, c'était une façon de faire en sorte que, où qu'on aille, par la suite, on avait cette présence divine dans le Mishkan, puis dans le Beth Amikdash. Il y avait cette possibilité de retrouver le Sinaï. On peut dire que à partir de Moshe Rabbeinu, la ptira de Moshe Rabbeinu, Hachem parle plus directement aux hommes. Bon, mais du coup, peut-être à ce moment-là, ça s'est étendu à tout le monde, parce que en fait, tous les chachamim, il y a eu d'abord la nevoa, d'accord, il y a encore des prophètes, ou beaucoup a continué de parler aux gens, même si c'était pas spécifiquement dans le Beth Amikdash. Et puis ensuite, Hachem a continué d'inspirer les chachamim. D'accord? Ça veut dire il y a toujours cette présence divine qui est dans le fait que dans le clan Israël, il y a de la Torah qui se fabrique tous les jours. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur justement à la fois la sortie d'Égypte, ce que dit le Rav Vali, et les Moadim. Il y a plein de points, mais il y a un point qui est particulièrement, qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que si vous prenez dans le chapitre 24, les premiers psukim, chapitre 24, Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts, Tzav et Bnei Israël, Viikru elech Hachem en Zayit Zach, Katit la Maor, la Alot Ner Tamid, Ichutz la Parochet Haedut, Noël Moed, Yaroch Oto Aaron, Erevat Boker, Lifne Hachem Tamid, Ukat Olam le Dorotechem, Alam Nora Teora, Yaroch Tanerot, Lifne Hachem Tamid. Donc, ici, le Passouk nous dit des choses qu'il nous a déjà dit dans Parchat Tetzaveh d'ailleurs. Et il répète ici que les Bnei Israël doivent prendre l'huile, la fameuse huile d'olive avec toutes les qualités, et l'amener à Moshe Rabbeinu. Et c'est avec cette huile d'olive qu'on va allumer la menorah. C'est un travail, donc le travail de la menorah, c'est le travail d'Aaron à Cohen. On allumait le soir et on remplissait les sept nérotes d'huile de cette fameuse huile d'olive. Et ça brûlait, la soirée. Mais ici, il y a quelque chose qui n'existe pas directement dans les autres, dans tous les korbanot. Ici, tout à coup, il y a la mitzvah, bien sûr, il y a la mitzvah d'Adlakat HaNerot. Mais en plus de la mitzvah d'Adlakat HaNerot, c'est marqué ici, Tzav et Bnei Israël, Veyikru Elech Hashem en Zayit Zach, Katit la Maor. La Torah, elle dit, il faut amener de l'huile à Moshe Rabbeinu. Dans les Korbanot Sibour, la Torah, elle ne nous dit pas Vehikru, Seirim, etc. Bon, pourquoi tout à coup, là, on nous dit qu'il faut amener de l'huile? Pourquoi le clan Israël doit amener de l'huile ici? Pourquoi on n'achète pas de l'huile avec le marsita shekel, comme on achète les korbanot pour le tzibour? Ici, il y a quelque chose de particulier qu'on ne retrouve pas dans les korbanot. Dans tout ce qu'on amène à Kadosh Baruch Hu, dans le Beit HaMikdash, dans le Mishkan en l'occurrence, ben, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas du tout ce qu'on trouve là maintenant concernant l'huile. Et puis, il y a le problème de pourquoi la Torah nous répète ça. Elle nous a déjà raconté tout ça dans Parshat Tetzaveh. Dans Tetzaveh, ça commence. Ve'ata Tetzaveh et Bnei Israël, bikru elecha, shemen zayit zar, katit lamaror, la'alot ner tamid. Yaroch oto Aaron, ubanav, me'erevat boiker, lifnei Hashem, ukat olam dorotam. Pourquoi la Torah, elle répète? Il y a un midrash sur ce psukim là qui parle. On parle ici de cette menorah qui va donc brûler. Et le midrash dit Chalonot ayu le Beit HaMikdash. Dans le Beit HaMikdash, il y avait des fenêtres. Selon ces fenêtres, elles avaient ceci de particulier que umehem haita ora yotzelam la. La lumière sortait vers le monde de ces fenêtres. Donc ces fenêtres, elles étaient construites pour rayonner et pas pour capter la lumière et l'amener vers l'intérieur. Elles étaient en quelque sorte construites à l'envers. Donc, d'habitude, nous, on construit des fenêtres pour capter la lumière et l'introduire. Et ces fenêtres-là, elles étaient construites pour émaner, pour rayonner la lumière intérieure vers l'extérieur. Alors le Rabbi Moshe Shetter, dans son commentaire, il propose d'expliquer la chose de la manière suivante. Pour y comprendre, pour répondre à ces deux questions, en réalité, il ramène la Gemara dans Menachot. La Gemara, elle s'arrête sur le fait que le pasouk dit « Michutz la parokh et ha'edut »« Be'oel moed » À l'extérieur du rideau de témoignage, dans le « Be'oel moed » La Gemara, elle entend Michus le parochet a edut. La Gemara dans Mnachot, elle entend, il y a edut ici, un témoignage. Alors, la Gemara, elle dit, edut hi, le chol bae olam, shashchina shora bi Israël. C'est un témoignage pour tous les gens du monde que la présence divine existe dans le clan Israël. Et David de Hofstetter a dit, mais on ne comprend rien du tout. Pourquoi cette menorah qui brûle à l'intérieur du Mishkan ou du Beit HaMikdash? En quoi est-ce que elle va témoigner de quoi que ce soit d'ailleurs? Qui est Ashrat Ashkina b'Israël, le Chol Ba'e Olam, à tous les habitants du monde. Quoi. Où est-ce qu'on allume? Dans le Beit HaMikdash. Il y avait quelques Kohanim qui voyaient cette menorah brûlée. Personne ne voyait rien. Et de plus, comment est-ce que ça pourrait être un témoignage d'un Shrata Shrina, même pour tout le clan Israël simplement. Dire qu'il y a un Shrata Shrina dans le clan Israël, parce qu'il y a une lumière qui brûle dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, c'est un témoignage qu'il y a une présence divine dans le clan Israël. C'est quoi? On ne comprend rien là-dedans. Alors, pour expliquer ça, il propose de dire que, bien entendu, la lumière dont on parle ici, ce n'est pas la lumière physique produite par les Nérotes en question. Bien sûr qu'il s'agit d'une lumière spirituelle. Parce que la lumière physique, elle était visible tout juste à l'intérieur, c'est tout. Donc ici, il s'agit d'une lumière spirituelle qui, elle, n'est donc pas du tout limitée dans l'espace. Et le fait que les gens profitent de cette lumière-là, ça ne diminue pas du tout la lumière en question, pas plus que dans le monde physique, de profiter de la lumière, ça ne la diminue pas non plus. Et le Midrash dit, ce fameux Midrash qui parle des chalonot, qui parle des fenêtres, la Gemara là-bas, elle dit, non, pardon, ça c'est le Midrash. Le Midrash dit, Rabbi Shimon ben Yotzdak, Sha'al Rabbi Shmuel bar Nachman. Il lui a posé une question, il lui a dit, Mehechan ora yatsa leolam. D'où la lumière sort-elle vers le monde? Hazal dit, il y a des chalonot, il y a des fenêtres, à travers lesquelles la lumière va sortir vers le monde. Mais d'où elle vient, la lumière? On me dit où elle passe, mais d'où elle vient? Alors il lui a expliqué. Il lui a dit, Amarlo, Nitatef HaKadosh Baruch Hu Kesalma. HaKadosh Baruch Hu s'est enveloppé dans quelque chose qui est comme une espèce de robe. Et il a éclairé, il a fait briller dans le monde entier l'éclat de sa perfection. Et bien sûr, ça ne parle pas du tout d'une lumière physique. Donc ça veut dire que, en plus de la Ashrat Ashrina, celle qui était perceptible dans le Beth Amikdash, grâce à la menorah, vous savez bien qu'il y avait le fameux ner maravi qui brûlait, bien qu'on ait mis la même quantité de combustible, donc d'huile, dans le ner maravi que dans tous les autres, dans les six autres, celui-là, il brûlait beaucoup plus longtemps. Il brûlait de façon miraculeuse, si on peut parler. Et on dit que cette façon de brûler de façon miraculeuse, c'était ça le témoignage de la présence divine. Ok, alors il y a présence divine dans le Beth Amikdash. Il y a Ashrat Ashrina. Mais la menorah, elle représente aussi l'expansion de cette lumière, spirituelle dans le monde, dans tout le clan Israël. Et l'impact de cette lumière spirituelle-là, tout le monde pouvait la voir. C'est ça le témoignage qu'il y a Shrina dans le clan Israël. Alors, comment est-ce que cette lumière spirituelle se voyait? Alors, je vous ai dit, à l'intérieur du Beth Amikdash, c'était essentiellement le fameux nerf maravi. C'est en fait le nerf central de la menorah. Seulement, il y a un principe fondamental qui est que Akadosh Baruch Hu, il a choisi les Bnei Israël comme associés en quelque sorte. Et Akadosh Baruch Hu veut que dans ce rayonnement de cette lumière spirituelle, que les Bnei Israël y soient associés également. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on peut appeler ici, ce que lui il appelle comme ça, une it'aruta de l'etata, un éveil d'en bas. L'éveil d'en bas, ça veut dire que les Bnei Israël doivent faire quelque chose dans le monde d'en bas. Et si on fait ce quelque chose dans le monde d'en bas, Akadosh Baruch Hu va amplifier ça sans commune mesure avec ce que nous avons fait, mais nous serons associés à ce rayonnement-là. Il faut qu'il y ait une itaruta de l'etata, une itaruta, un éveil. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit le fait des Bnei Israël. Alors, bien sûr, cet éveil d'en bas, qui est absolument nécessaire, donc un travail fait par les Bnei Israël, les Israël font quelque chose dans ce domaine-là, alors, l'impact de cela, c'était un impact qui se manifestait sur tout ce que faisaient par la suite les Bnei Israël. Rashi, il le dit dans Maseret Shabbat, il dit « Kol zman she'ayu Israël chavivin » Tant que les Bnei Israël étaient précieux pour Hachem, c'est-à-dire tant qu'ils se conduisaient bien, « Ayadole kolayom » Vainu Eduta, le nerf maravi brûlait toute la journée qui suivait. Il y avait toute la nuit et toute la journée. C'est ce que dit l'Agmara dans Maseret Yuma. Arbaim Shana, Sheshimes Shimon Hatzadik, Yaner Maravi Dolek, pendant que les 40 ans où Shimon Hatzadik était Kohen Gadol, le nerf maravi brûlait toujours toute la journée d'après. Mikan Velach, après la période de Shimon HaTzadik, Permim Doleg, Permim Kava. Des fois il brûlait, des fois non. Donc on voit qu'Ashrat Ashrina, sur laquelle portait le témoignage de la menorah elle témoignait sur cette Ashrat Ashrina, elle vient du Klal Israël. Elle dépend des actions du Klal Israël. Si les Bnei Israël se conduisaient bien, alors le témoignage est un vrai témoignage, il est visible. Et si les Bnei Israël ne se conduisaient pas bien, alors il n'y a aucun témoignage. Alors, l'expression de cette Ita'aruta de l'Etata, elle est là, ici en particulier, dans le fait que il faut amener l'huile pour la menorah. Les Bnei Israël ont un tzivoui, le tzav, ordonne aux Bnei Israël d'amener l'huile. Vikru elecha shemen zayit zav. De telle sorte que les Bnei Israël soient associés à cette opération. Que tous les Bnei Israël soient associés à cette opération de rayonnement de la présence divine dans le monde à partir du Klal Israël. Et c'est pour ça que cette mitzvah de Hadlakat HaNerot, elle est différente des Korbanot. D'accord? C'est aussi une mitzvah. Donc, bien sûr, on devait, dans les matériaux qu'on avait amenés pour le fonctionnement du Mishkan, il y avait aussi de l'huile, Mais à ce moment-là, l'huile était nécessaire pour oindre le Mishkan, etc. Maintenant, il y a eu la Shrina, il y a la Shrina dans le clan d'Israël, dans le Mishkan d'abord. Alors, il s'agit d'une autre manifestation d'apporter un autre sens dans le fait d'apporter l'huile ici, c'est d'être partie prenante à ce rayonnement de la présence divine dans le monde. Donc, à l'Israël, que le monde entier soit au courant. Et d'après ça, on peut expliquer la raison pour laquelle la paracha de la menorah est juxtaposée là à la paracha des Moadim. Il y a juste les Moadim et d'abord et ensuite la menorah. C'est marqué Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem El Bene Israël. Et Kivan Shegam Yesod Inyanam Shel Moadim Hi Hashpa'at Hashchina Chutz Lekotlei Bet Hamikdash. Dans les Moadim, la présence divine, elle se manifestait aussi en dehors, évidemment, des limites du Bet Hamikdash. Puisqu'on sait que les Bnei Israël, quand ils montaient à Yerushalayim pour voir et être vus, ce qui était le propre donc, de ces Moadim, ces fêtes de pèlerinage, de s'être présenté à Hachem à ce moment-là, ça avait comme conséquence que toute l'année, même après qu'ils aient quitté l'enceinte du Beth Amikdash, qu'ils soient retournés chez eux, toute l'année, il y avait ce flux de la lumière divine, en fait, de la présence divine, donc des bontés d'Hachem, qui les accompagnaient durant toute l'année. Le Aboudraham, qui quand il commente la tfila de Yom Tov, dans la tfila de Yom Tov, il y a un moment donné, on dit Vasiyenu, Hashem Elokeinu esbichat moadecha. Vasiyenu. C'est-à-dire, charge-nous. Charge-nous, comme Massad et Bnekehat. Charge-nous. De la bracha de Moadim. On demande à Hachem, charge-nous, en quelque sorte, comme si, fais en sorte que nous, même quand nous allons quitter l'enceinte du Beth Amikdash, que nous prenions avec nous toute justement cette présence divine, en quelque sorte. La bracha que tu as donnée que tu as mise dans les Moadim. C'est aussi, la raison pour laquelle, ici maintenant on a expliqué pourquoi la menorah était juste après les Moadim, mais qu'est-ce qu'il y a juste après la menorah? Il y a la paracha de l'Echem HaPanim. L'Echem HaPanim, vous vous souvenez, vous savez, c'est les fameux pains qu'on mettait sur le Shulchan. C'est-à-dire que on a parlé du Parochet, du fameux rideau qui est entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Du côté du Kodesh HaKodashim, il n'y avait que le Aaron. Et de l'autre côté, il y avait d'une part le Shulchan, et de l'autre part, c'est un côté le Shulchan, et de l'autre côté du rideau, enfin, toujours du même côté du rideau, mais d'un côté et de l'autre, la menorah. La menorah et le Shulchan. Et sur ce shulchan, il y avait ces fameux pains qu'on changeait tous les Shabbatot et qui restaient frais, etc. Ça s'appelle l'Echem HaPanim parce qu'il y avait c'est comme si les pains qu'on fabriquait avaient un visage. Alors, c'est les pains qui, il y avait des règles bien très strictes de fabrication de ces pains. C'est-à-dire qu'en vérité, dans ces pains, il y avait la bracha de la parnassa. Le shulchan, c'est la parnassa. Donc, ça veut dire, vous avez la spiritualité qui rayonnait par la menorah et la parnassa qui rayonnait par le shulchan, par les pains sur le shulchan. Et comment ça se manifestait? Ça explique que quand tu mangeais un tout petit peu de ce pain, les kohanim, quand on échangeait les 12 pains et qu'on les remplaçait Shabbat par d'autres pains, ben évidemment, c'est les kohanim qui mangeaient. Et même si on en mangeait une toute petite quantité, on était rassasié. Donc, cette bracha d'être rassasié avec très peu, c'est une bracha que le Shulchan donnait au clan Israël en permanence. Donc, on comprend bien que ce soit juxtaposé, parce que c'est la même chose, si vous voulez, sur le plan matériel, sur le plan de la bracha matériel, que ce qu'on a dit sur le plan de la bracha spirituelle, des bontés d'Hachem, qu'Hachem nous donne spirituellement et matériellement. Alors là aussi, la akrava de l'Echem Apanim, c'était la itaruta de l'Tata pour la bracha qui est donnée par Hachem. Donc les Bnei Israël font des petites choses, allumer la menorah, fabriquer les pains qu'on va mettre sur le Shulchan Aruch, c'est toujours Begeder itaruta de l'Tata pour un effet gigantesque qui concerne tout le clan d'Israël, etc. Ça, c'est une deuxième chose que je voulais voir avec vous. La troisième chose, c'est un sujet un peu plus délicat. Si vous lisez un peu plus bas, au pasouk Yudalef Yudbet, toujours de ce chapitre, Kavdalet 24, alors, il y a la fameuse histoire du Veyatsa ben Isha Israélite ou ben Ish Mitzri, Betor ben Israël, ben Atsu, ben Machane, ben Israélite, ben Isha Israéli, ben Ikov ben Isha Israélite, et Hashem, ben Kalel, ben Yaviou Oto El Moshe, Hashem Imo Shlomit Bat Divri, le Matedan, ben Yanicheu ben Mishmar, Lifroch lahem al pi Hashem. Donc on l'a mis en prison en attendant qu'Hashem dise ce qu'il faut lui faire. Donc Hashem va répondre, va dire voilà, il va falloir le tuer en fait. Donc il y a cette histoire de c'est marqué dans le pasouk. Vaïkov, donc il a blasphémé le Ben Isha Israélite, le fils de Shlomit Bat Divri, et Hachem. Vaïkalel, donc il a maudit Hachem, si vous voulez, si vous parlez comme ça. Et on l'a amené à Moshe, qu'il a mis en prison préventive pour savoir, en attendant qu'Hachem dise ce qu'il faut faire. Hachem a dit, on va le sortir du Machane, on va le lapider. Bnei Israël, asu kaasher tziva Hachem et Moshe. Donc là, de nouveau, Rav Shetter, il se demande, pourquoi est-ce que c'était nécessaire de nous dire que les Bnei Israël ont fait les choses comme Hachem les avait ordonnées à Moshe. Alors, Rashi explique dans Sanhedrin cette histoire. Il dit que le Megadef aura Tcha'aïta. Ce qu'on a fait avec ce Megadef, avec ce blasphémateur, etc., c'est une aura Tcha'a, c'est-à-dire, c'est pas du tout la halakha qu'on a appliquée. C'est Horat Shav, c'est littéralement, ça veut, c'est une décision momentanée, provisoire. C'est-à-dire provisoire au sens, elle, on va pas, elle va jamais devenir définitive. Et l'Agmara donc dit dans Sanhedrin que c'est une décision ad hoc, si vous voulez. J'aurais l'onit stavu, mitrila, alota, chavisha, ou me atzmam asu, qui van, de l'onemarbo mita mitrila, comme on avait, il n'avait jamais été dit à l'avance que c'était passible de mort. Ama safek ayalaem la til alav safek mita l'chofsho. Pourquoi ils avaient des doutes? On n'a pas pu l'avertir, puisqu'on ne savait pas quelles sanctions il y avait. Or, quand on veut pouvoir condamner quelqu'un, il faut des témoignages de gens qui l'ont averti et qui lui ont dit qu'il encourait telle telle peine de mort. On ne la connaissait pas, cette peine de mort. Donc, on est bien obligé de dire que c'était ce qu'on appelle l'Horat Shah, une décision tout à fait ad hoc. Donc, quand les Bnei Israël ont mis en prison préventive, en quelque sorte, cet homme-là, ils l'ont fait de leur propre initiative. Ils ne savaient pas du tout qu'il était Chayav Mita. Mais en fait, y a, comme Rachid dit, il n'y avait aucune raison d'attendre quoi que ce soit. Il n'y avait pas de sanctions prévues, donc pourquoi ils l'ont mis en tôle? Pourquoi ils l'ont mis en prison? Alors c'est vrai que le din n'avait pas encore été dit que le Megadef, il est Chayav Mita. Néanmoins, les Israël pensaient que dans ce cas-là, il allait être Chayav Mita pour d'autres raisons, c'est-à-dire on sait très bien que ce Megadef, en vérité, il avait un statut de guerre, d'étranger, qui fiche, comme Chazal le disent, le Torch Bnei Israël, mais la Mèche chez Nidgaïer. En vérité, il était Nidgaïer. C'est un converti. Et puisque, ensuite, il a blasphémé contre Hachem. Alors les Bnei Israël se sont dit, la kina qu'ils avaient pour quelqu'un, contre quelqu'un qui blasphème Hachem, ils pensaient que c'est sûr que ça voulait dire qu'en vérité, il n'était pas vraiment converti. Parce qu'en fait, il s'est révolté contre Hachem. Mais en vérité, si la guéroute n'est pas vraie, et s'il était en fait encore un idolâtre, alors les Bnei Noach, ils sont metsuvim sur le Birkat Hashem. Ça fait partie des sept mitzvot des Bnei Noach. Et les Bnei Noach, ils sont chayav mita sur toutes les transgressions de leur mitzvot. Par conséquent, ils l'ont mis en observation, en quelque sorte, pour savoir est-ce que on le considère comme quand même comme un Israël qui a blasphémé, ou peut-être comme un Goy qui a blasphémé. Donc quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que ça la halakha, c'est qu'on allait lui appliquer ce qu'il a. Ce qu'il dit dans le Passouk, Gomuoto Kol Aeda. Les Bnei Israël ont compris que ça veut dire que la conversion était une bonne conversion et qu'il était à considérer comme un Ben Israël. Parce qu'un Ben, la preuve, c'est que s'il avait été un Ben Noach, la peine de mort qu'on applique à Ben Noach, c'est Saïf, c'est on leur coupe la tête. Et là, on l'a dit qu'il allait être lapidé. Ça n'existe pas chez les Bnei Noach. À ce moment-là, les Bnei Israël se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Ça veut dire que la dispute qu'il y avait avec lui, parce que toute cette histoire, elle est partie d'une dispute. Comme Rashi l'a dit, Rashi a expliqué que qu'est-ce qui s'est passé. Balita oalo betoch machne Dan. Lui, sa mère, elle était de Dan. Sa mère, c'est la femme qui a été violée par l'Égyptien que Moshe a tué. Et lui, il est l'enfant de ce viol. Et donc, il est venu et il a planté sa tente dans le camp de la tribu de Dan. Et ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Il leur a dit, j'appartiens à la tribu de Dan. Ils lui ont dit non. Ça va, Ishal Diglo, Beotot, Lebet Avotam, Ktiv, c'est marqué que ça va d'après les pères. Et par conséquent, ton père étant égyptien, tu ne fais pas partie du Mahané Dan. Alors lui, il est entré dans le Beddin de Moshe Rabbeinu et il a demandé le jugement et le jugement a dit que, évidemment, c'est vrai qu'il n'a pas un statut de Bnei Dan. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis et il a blasphémé. Il a dit, bon, tout ça c'est Rashi qui l'explique que Vinatsu ba Machane, ils se sont battus à l'Iske à Machane. Est-ce qu'on a le droit sur le problème du camping entre lui et les gens de la tribu de Dan? Maintenant, les Bnei Israël ont compris que le fait d'avoir mis en doute la conversion de ce Megadeth, chez eux, est-ce que c'était faux? Ça veut dire que ça venait pas d'une vraie kina pour Hachem. C'était pas vraiment l'Ishma. Mais ça venait de, ils se sont mis en colère parce que lui, il a voulu se mêler à eux, planter sa tente avec eux. Et donc, cette haine est entrée en eux et c'est elle qui a fait toute cette dispute. Alors d'après ça, il faut expliquer le texte. C'est marqué Vayotziu et Amkalel el Mikhutz la Machane. On a sorti ce Mekalel à l'extérieur du camp. Vayergumu oto aven, ils l'ont lapidé. Ubnei Israël asuk asher tziva Hashem et Moshe. C'est quoi cette phrase là? Charini chora kaché madua. Chazar Katou ve'amar shebnei Israël asu kasher tziva Hashem. Arekva ne'amar sheotziu etamgadef michutz la'machane ve'rgomu v'av. On a déjà dit qu'ils ont fait les choses comme Hashem l'avait prescrit. Le Sforno sur place, il explique que ce verset il vient nous dire que les Bnei Israël n'ont pas lapidé le Megadef par haine. Al-Shaya Ger ve Shid Gare Ba'ezrach, une espèce de haine débile parce qu'un étranger s'est battu avec un autochtone, disons. Elle a quitté le Kayem et Mitzvat Hashem Bilvat. Le Pasuk vient nous dire qu'en fait, ils ont compris leur erreur et qu'ils n'ont fait les choses uniquement parce qu'Hashem avait prescrit. Et le Netziv, dans le Hamek Davar, il dit aussi quelque chose de ce genre-là. Mais lui, il a ajouté, c'est pour ça que c'est marqué, Vayergumu oto aven. Ils l'ont jeté une pierre. Une pierre. Donc, c'est pas qu'ils l'ont lapidé. La mitzvah de ce qu'il a, c'est comme ça. C'est, quand on traduit par lapidé, on a l'impression qu'on lui a jeté des pierres, mais c'est pas comme ça. Le type, on le précipite d'un premier étage sur une dalle. Normalement, il est mort. S'il n'est pas mort, vraiment, on met une énorme pierre sur lui. Il écrase complètement. S'il n'est toujours pas mort, Alors, à la fin, il y a les témoins qui doivent jeter une pierre par-dessus. Enfin, il est déjà mort. Il ne s'agit pas de lapidation en lui jetant des pierres. Donc, ici, on peut voir que, comme au début, il s'était trompé par haine, en quelque sorte, l'étranger. Ils ont pensé que peut-être c'était un non-juif, en fait. Donc, on pouvait penser qu'ils n'ont pas réussi à enlever cette mauvaise pensée de leur cœur. Et que donc, dans leur lapidation, il y avait encore de la colère et de la vengeance, etc. C'est ça que la Torah, elle dit très clairement, « Kacher tziva Hashem ». Ils ont fait exactement ce qu'Hachem avait ordonné qu'on fasse. Parce que quand ils ont compris qu'ils s'étaient trompés, ils ont réussi à enlever la colère et la haine de leur cœur. Et donc, ils n'ont fait que l'ordre d'Hachem. Donc là, on peut apprendre combien il est important de faire attention avec la kanaout dans les gens. Au nom d'Hachem, au nom de la Torah, etc. Il faut bien faire attention qu'ils ne viennent pas se mêler quoi que ce soit d'étranger pour être bien sûr que c'est vraiment le Shem Shamayim. Et qu'il n'y a aucune neguia, il n'y a pas un élément secondaire qui viendrait d'une haine ou d'une vengeance ou quoi que ce soit d'autre. Pour être bien sûr que c'est ça que la Torah vient nous enseigner ici. Enseigner que on peut faire ça seulement si on est sûr qu'il n'y a aucune dimension de jalousie, de haine, etc., qui viendrait se mêler à la procédure que la Torah a prescrite. Voilà. Bon, on va s'arrêter là.